Vous êtes sur Campus Radio 90.8 FM avec le radio de l'École d'architecture de Grenoble. Et maintenant, on monte depuis le studio radio sur les toits de l'école pour rejoindre les autres. Studio radio sur les toits de l'école pour rejoindre les autres. Studio radio sur les toits de l'école pour rejoindre les autres. Studio radio sur les toits de l'école.
Sur le toit pour rejoindre les autres. Studio radio sur les toits en direct.
On est en direct des toits de l'école d'architecture de Grenoble et on a donc changé de plateau. Vous pouvez l'entendre un petit peu, je l'espère. Bienvenue à tous, on est toujours sur Radio Campus Grenoble, on est toujours depuis l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble. Et quand on vous dit sur les toits, c'est vraiment sur les toits. On a une vue absolument magnifique sur l'ensemble de la Villeneuve, même si je lui tourne un peu le dos actuellement. On est dans un temps un petit peu particulier parce que on a décidé de prendre 2 heures pour faire une radio ouverte. C'est-à-dire qu'on va laisser un petit peu de temps, pas forcément préparé, et laisser du temps à tous et à toutes pour venir s'exprimer sur ce qui les intéresse. Peut-être des étudiants et des étudiantes en architecture, peut-être des enseignants et des enseignantes, peut-être des chercheurs, chercheuses. On verra, c'est un peu la surprise. Je vous propose qu'on commence directement avec Jules qui va nous parler un petit peu de choses qu'il a envie de nous faire écouter. Juste après, un petit jingle bien sûr, parce que on aime bien les jingles et on en a préparé plein. Enfin, c'est surtout les étudiants qui en ont préparé plein. Et j'imagine que si je fais ça...
مرحبا بكم في راديو كامبيس غرنوبل. نحن الآن على الهواء مباشرة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في غرنوبل. يمكنكم الاستماع إلينا على تردد 90.8 وذلك في إطار افتتاح استوديو الإذاعة المحلية.
Alors, sur les toits de Radio Campus, sur les toits de l'école d'architecture de Grenoble Sud, en direct, on voulait commencer peut-être par vous redire, Théo l'a précisé ce matin, que toute cette semaine et cette journée était organisée à la base par le laboratoire de recherche Cresson, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Et on s'est dit que peut-être on pouvait un peu resituer le pourquoi. En fait, c'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez au son alors que vous faites de l'architecture ? J'ai un petit arsenal. Et c'est une question que, ouais, quand on discute avec quelqu'un, n'importe qui, très vite, il nous pose cette question. Et en fait, voilà, les chercheurs, les thésards, tous les gens qui travaillent au labo ont formalisé des réponses très, très savantes, on va dire. Moi, j'aime bien partir d'un exemple tout bête, en fait. C'est une recherche qu'on a faite en 1997 à Paris, sous la pyramide du Louvre, du Grand Louvre, que tout le monde connaît en termes de référence architecturale. Et c'est vrai que c'est le grand geste architectural d'un grand architecte pour une grande commande nationale et tout ça, avec une forme très pure, une pyramide qui peut évoquer les pharaons, des choses comme ça, des matériaux très purs comme le verre, comme la pierre de Bourgogne et tout ça. Et quand on a étudié ça, une acoustique complètement caca. Et on s'est dit, tiens, cet architecte-là, soit il n'avait pas d'oreilles, soit il a strictement pensé que à des grands concepts, à des puretés visuelles, des choses comme ça. Et donc, à partir de là, on s'est dit, tiens, ben, il y a quand même un truc, quoi. Quand on conçoit un bâtiment, n'importe quoi, c'est bien quand même d'ouvrir aussi ses oreilles. Donc, je vais vous replonger directement dans l'atmosphère de la Grande Pyramide. Et donc, on va commencer par ce qu'on appelle ça une traversée polyglotte, c'est-à-dire en prenant des petits bouts de plein de gens qui nous parlent, tout en cheminant. On arrive en haut de la pyramide, on rentre dessous et on va un petit peu dans le souterrain.
Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est le fait qu'il y ait ces espaces d'eau qui donnent un ensemble tout à fait vivant.
Very pleasant place because you're a little bit inside, you're a little bit outside.
On est là à l'entrée de la pyramide. C'est ça.
Ça attire.
Un verre.
de partout, en bas, en haut.
You see everything outside.
En plus, c'est très lumineux comme espace.
On descend en spirale, on tourne autour.
Ça me donne le vertige parfois, les escaliers.
En remuant.
Yeah, that's interesting to hear a lot of languages.
Voilà, déjà j'ai parlé de brouhaha, ici c'est une espèce de bruit confus, il y a le même bruit que dans les piscines. On entend tout et rien, parce qu'en fait on peut rien comprendre et rien.
La lumière est naturelle.
Si, il fait une chaleur absolument effrayante, ça fait un effet de serre.
Sombre.
Avec un plafond là.
Le plafond est beau quoi, c'est pas un... Il est.
Et c'est un lieu de passage, voilà. C'est un lieu très obscur. Une sensation de luxe aussi dans ces magasins.
Parce que le sol est vraiment remarquablement lisse, disons, et je n'ai pas de sentiment d'insécurité en marchant.
La lumière est douce. On voit au fond la pyramide inversée, elle est blanche, bleue.
J'ai l'impression que moi c'est la lumière qui m'attire.
La perspective, on est allé, on a pas de toilette, ça donne
la lumière. La lumière, la vraie lumière, quoi, parce qu'on est.
L'impression d'un trou avec la pyramide inversée, un trou.
Cette forme comme ça pointue vers
comme
le bas,
on a
l'impression
que ça
aspire en fait vers le bas.
Justement là, je suis happée par les nuages.
J'aime beaucoup cette forme renversée. Le cristal aussi, c'est bien. Tous les reflets, les gens qui se reflètent là. J'ai envie de la toucher. C'est chaud.
Il y a des taches de lumière au sol quand même, là, à gauche, avant de passer dans l'allée du carrousel. Et au fond, on a ce
des
mur historique.
Des petites lumières qui me font envie d'aller dans cette direction.
Il y a un petit courant d'air de fraîcheur qui n'est pas désagréable. Il y a moins de
oui,
monde.
Oui, là, il fait frais. Là, c'est agréable. Nettement plus agréable. Il y a peut-être un léger courant d'air.
Là, on arrive dans un autre espace, juste devant l'enceinte.
Côté fossé Charles V. Là, la première sensation, c'est quelque chose de grandiose.
Puis le parquet Kélis qui brille.
Une grande unité de lumière.
Toujours l'éclairage indirect. L'impression d'être dans un espace lumineux très
peu,
homogène.
Un petit peu sombre, c'est ça qui
feutré
m'inquiète un
aussi.
Peu.
Un peu de quelque chose de feutré, filtré.
Et là, pour le coup, si c'est une sensation tactile, moi j'ai envie de toucher la pierre. Oui, c'est-à-dire le...
Voilà, on a fait une petite traversée où ceux qui connaissent ont reconnu, ceux qui ne connaissent pas ont découvert les différentes sensations. Je vous parlais en fait au départ de l'ambiance sonore qui quand on arrive sous cette pyramide. En fait, ce qui est rigolo dans les commentaires, c'est qu'on conçoit une pyramide grandiose et on se retrouve dans une ambiance piscine, comme dit quelqu'un, donc ça aspire à la modestie. Et puis, si vous avez écouté un petit peu tout du long, vous pouvez remarquer que les gens ont des tas de perceptions sensorielles différentes, depuis le pas qui glisse sur le sol très lisse, ou des aspirations vers la lumière tout là-bas, ou des sensations de fraîcheur, de courant d'air, de thermique, quelque chose comme ça. Donc c'est toutes ces richesses-là que le laboratoire Cresson, entre autres, essaie d'étudier pour les amener dans la pensée des étudiants en architecture et des architectes.
Je trouve que c'est assez magnifique comme fragment. C'est toi qui l'as monté? Qui a fait un montage.
C'est le premier montage, oui.
Ouais, c'est vraiment super agréable à écouter. On a parfois l'impression de, comme s'il y avait un effet d'écho, parce que des gens redisent plus ou moins la même chose ou pas la même chose, mais c'est pas les mêmes voix. Il y a quelque chose de très musical, paradoxalement, dans le discours, quoi. Et c'est super beau. Est-ce que y a des gens autour de la table ou même un petit peu plus loin qui veulent réagir, ou est-ce qu'on passe à l'écoute de l'espace directement? C'est ça que tu voulais faire, Julien? Tu voulais nous faire écouter l'espace après, ou on va le faire d'ici, mais tu voulais...
De l'espace.
Non, pardon, j'ai pas compris.
Non, je voulais juste, voilà, vous citer cet exemple, c'est une grande recherche, enfin une recherche importante qu'on a faite il y a déjà pas mal de temps, qui pour moi c'est l'exemple typique de pourquoi on peut s'intéresser au son et aux autres perceptions sensorielles dans l'architecture, qui est quand même beaucoup guidée par des perceptions visuelles et des conceptions visuelles surtout. Voilà, c'était un exemple pour ça. Je voulais quand même faire écouter un deuxième petit extrait d'entretien qu'on a fait avec des gens qui travaillent là-bas. Parce que oui, vous êtes touriste, vous arrivez, vous entrez, et puis vous passez 5-10 minutes à acheter un ticket pour visiter le Louvre, et après vous vous retrouvez dans les galeries. Mais il faut penser qu'il y a des gens qui travaillent là-bas dans 8 heures par jour. Et qui baignent 8 heures par jour dans cette ambiance de piscine. Essayez d'imaginer ce que ça peut donner. C'est le peu d'entretien, donc.
C'est fait que, bon, bah, quand je suis dans le musée, on dirait que ça me pèse sur la tête quand je sors en dehors du métro, hein, là où il n'y a pas du bruit, je me sens soulagé. Vraiment, je me sens vraiment soulagé d'un fardeau, je ne sais pas quoi, à cause du bruit. Il y a l'aération, il y a les gens, tout le mélange, quoi. Même si on va dehors, là, dans les... dehors, là, il y a les vestiaires, tout ça, c'est un peu calme parce que la porte, tout ça, ça coupe le bruit, quoi.
Et là, par exemple, vous êtes posté plutôt ici?
Oui, oui, sous la pyramide, là.
D'accord. Et ici, c'est pire ou c'est mieux que sous la pyramide elle-même?
Disons que tout ce qui est là, sous la pyramide ou par là, surtout ici c'est plus parce qu'il y a les gens qui viennent déposer leurs affaires, tout ça, il y a une concentration de personnes ou à l'accueil des groupes là, ou là où il y a le café, tout ça. Là où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un peu mieux, mais là où il y a une concentration de personnes...
Là, on disait que ça vous pesait.
C'est sur la tête.
Moi, je travaille ici.
Bonjour.
Je reste bonjour et c'est vrai ce qu'il dit.
Ouais. Vous êtes posté à quel endroit?
Nous, pyramide, ouais. Mezzanine, où il a pu vous expliquer aussi. Et de temps en temps, on a les PC, les issues de l'entrée du personnel et tout ça. Et c'est vrai ce qu'il dit. Quand on est ici, on est doublement fatigué. C'est pas les transports, rien. Mais le fait d'être toujours faire attention aux gens qui passent, qui ne passent pas, et on a une tête comme ça. Et vous allez à l'accueil, on vous dira la même chose.
Non, on a beaucoup déjà interviewé les personnes de l'accueil, là, et elles nous ont dit pareil.
Ça pèse, hein.
Alors, est-ce que vous avez des stratégies, j'allais dire, est-ce que vous avez des moyens pour éviter ça ou pour être moins bien? Est-ce qu'il n'y a pas des lieux, est-ce que vous n'avez pas appris près d'un mur, par exemple, vous n'avez pas l'intérêt d'avoir plus de bruit qu'éloigné d'un mur?
Non, parce qu'on nous choisit nos postes, comme lui, on nous choisit nos postes. Et je pense que dans n'importe quel poste, soit pyramide, on n'est pas protégé.
La pyramide, c'est presque pareil. Mais plus ou moins, il y a une petite différence, plus ou moins de là où il y a moins de monde. Par exemple, je vous ai dit, à l'accueil des beaux, par exemple là, ou au vestiaire central, ou près des cafés, là où il y a plus de groupes, ça pèse plus. Mais là où il y a moins de groupes.
Mais il y a toujours ce bruit du fond.
Mais déjà sur la pyramide même, et on dirait que bon, il y a un poids qui nous pèse dessus. Je ne sais pas si c'est le mur parce qu'il y a trop d'épaisseur ou quelque chose comme ça. Moi j'ai le pressentiment, hein. Puis ça me pèse sur la tête. Quand je sors, ça me soulage. Quand je sors surtout dehors, ça me soulage d'un seul coup. On dirait qu'on m'a levé un fardeau que j'ai sur la tête.
Ça me fait penser à un petit extrait que je passe assez souvent, mais je trouve qu'il est assez explicite. Au Cresson, le Cresson travaille depuis pas mal d'années sur la question des effets. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler un peu plus tard, selon les temps de créneau qu'on a de libre jusqu'à 14 heures. Ça va dépendre un petit peu. Mais je trouve cet extrait assez explicite qui a été enregistré dans le pavillon de l'exposition universelle d'Alvaro Siza à Lisbonne, qui illustre bien l'exemple de ce qu'on appelle un écho flottant. Alors, on est dans un dispositif architectural qui n'a pas du tout été pensé pour son acoustique à la base, hein. C'est vraiment plutôt un geste fort avec, si vous ne connaissez pas ce bâtiment, il y a un voile de béton suspendu sur plusieurs dizaines de mètres, donc on a une portée avec un béton précontraint, etc. C'est un ouvrage assez exceptionnel d'un point de vue de l'ingénierie. Mais cette forme courbe, tout en béton, avec cet espace très minéral, crée un effet qui fait que quand on tape dans ses mains, alors quand on tape dans ses mains, on excite l'espace de manière un petit peu artificielle, mais pour avoir visité l'espace, on a aussi des gens qui passent avec des valises à roulettes, on a des gens qui écoutent de la musique, on a des gens qui traversent cet espace, qui viennent le voir, et puis bon, il y a aussi des gens qui y habitent. Il y a parfois des sans-domicile fixe qui sont installés là, parce que c'est à couvert, c'est à l'abri. Mais l'acoustique est un petit peu particulière. je n'irai pas jusqu'à essayer d'émettre un jugement, mais en tout cas, vous allez écouter par vous-même. On a un écho flottant, donc c'est l'effet que vous allez entendre. Très, très caractéristique.
En ouverture.
Attention!
D'accord.
Voilà, alors physiquement, comment ça se fabrique un écho flottant? Vous avez entendu que c'est juste quelqu'un qui tape dans ses mains. Et le son de ce clap va rebondir d'un côté. En fait, ce n'est pas tout à fait sous le voile de béton, ce sont des petites niches qui sont derrière, qui sont revêtues d'azulejos de céramique.
Oui, de céramique.
Donc très lisse, très réverbérante. Et comme les deux murs sont en parallèle sur, je dirais, 4-5 mètres, un truc comme ça, le clap va taper d'un côté, taper de l'autre côté et faire une espèce de ping-pong comme ça, très rapide. Et puis on entend aussi qu'en fonction de comment on tape dans ses mains, ça va même moduler la hauteur de ce son. Donc c'est quelque chose de très riche. En fait, vous pouvez les repérer à l'œil maintenant. Dès que vous voyez deux murs qui sont à 4-5 mètres, bien lisses, bien parallèles, vous faites un clap. Dans l'école d'architecture, il y en a un magnifique qui se trouve dans les garages. Si vous y allez, essayez, il est magnifique. Et en fait, il y en a un peu. Voilà, dès qu'on a cette configuration de deux murs parallèles bien lisses, à, je dirais à partir de 4-5 mètres, ça commence. Essayez.